Bienvenue au congrès virtuel de l'EFC 2014. Je suis Marie-Annelle, votre hôtesse ce soir. Et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFC est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. Dans le domaine de la santé, bon nombre de soins, gestes ou prises en charge peuvent occasionner une anticipation anxieuse plus ou moins importante. Qui peut dire qu'il va toujours chez le dentiste en sautillant d'impatience? Qui n'a pas déjà remis à plus tard un rendez-vous potentiellement désagréable, voire douloureux, mais pas absolument indispensable? Si vous êtes un professionnel de santé, vous connaissez les difficultés à effectuer certains soins si le patient est dans un état de stress fort. Dans cette conférence, vous allez apprendre comment préparer votre patient en quelques minutes avec une association successive de EFT et hypnose. Et puisque personne n'est à l'abri de subir un jour un acte médical plus ou moins stressant, à chacun d'apprendre comment supprimer l'anticipation anxieuse et installer le confort maximum, et ce, avant d'en avoir besoin. Notre conférencier de ce soir dirige un service hospitalier de réanimation à Saint-Étienne, où il utilise ses techniques au quotidien avec ses patients. Il propose également des programmes de formation pour le personnel soignant afin de faire découvrir ses techniques simples, rapides et efficaces. J'ai le grand plaisir d'accueillir Dr. Bruno Stimes. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Bienvenue au congrès virtuel. Alors c'est sûr que certaines interventions médicales n'ont pas la réputation d'être une partie de plaisir. Chacun a ses propres appréhensions, bien sûr, mais dans ton expérience, Bruno, quels sont les soins qui provoquent en général ce type de stress chez le patient?
Eh bien, Maria, il y a bon nombre de soins qui provoquent à la fois anticipation anxieuse, inconfort, voire sensations douloureuses. Dans notre monde hospitalier, on peut citer principalement donc des gestes médicaux, la préparation à l'anesthésie générale en elle-même est déjà fortement anxiogène. Les anesthésies locales, puisque on a une effraction cutanée et on utilise donc des aiguilles, des choses comme ça. Donc il y a angoisse et il peut y avoir, et aussi malgré l'anesthésie locale, des phénomènes douloureux. Toutes les ponctions veineuses, les prises de sang banales, des ponctions plus agressives, on va dire, ponctions thoraciques, ponctions médulaires. L'anesthésie péridurale, également, peut être source d'anxiété avant sa réalisation. Il importe donc de prendre un certain nombre de précautions avant de réaliser ces gestes. Mmh. Les gestes paramédicaux, également, peuvent être possiblement douloureux, voire ou anxiogènes. La réalisation de pansements, l'ablation de drainage en post-opératoire. Des soins de kinésithérapie également peuvent être possiblement douloureux. Quelqu'un qui est ankylosé au fond d'un lit en réadaptation après un séjour de réanimation prolongée par exemple, eh bien des ankyloses articulaires et le kinésithérapeute, lorsqu'il doit mobiliser ses articulations, eh bien ça peut être source de phénomènes douloureux. Et comme ces mobilisations interviennent régulièrement, plusieurs fois par jour, eh bien le patient peut développer une véritable anxiété, une inquiétude entre guillemets, avant la réalisation des séances. Les soins dentaires également peuvent être cités, comme tu le disais tout à l'heure, on ne va pas chez le dentiste en soutien de loin. Donc, tous ces éléments, toute cette batterie en quelque sorte de gestes, de pansements et autres, eh bien, peuvent être source d'anxiété, source d'inquiétude, source d'inconfort, d'une part, par une anticipation anxieuse, et d'autre part, peuvent être lors de sa réalisation, véritablement inconfortable, voire même douloureux. Mmh. Donc, il importe d'essayer de développer des attitudes et des stratégies pour lever ces inquiétudes et éventuellement cet inconfort. Voilà.
Oui. Oui, et on imagine assez facilement l'inconfort du patient avant et pendant ce type de soins, mais en plus, j'imagine qu'en tant que médecin, si le patient est extrêmement stressé, voire présente une phobie ou des réactions très fortes, ça ne doit pas vous faciliter votre travail.
Ben non, comme tu le dis, effectivement, quand le patient est tendu et agressé, il est évident que nous, la réalisation d'un geste est rendue plus difficile. Mm-hmm. On prend l'exemple d'une péridurale. Une péridurale qu'on appelle obstétricale, c'est-à-dire la mise en place d'un cathéter périmédulaire ou qui permet de délivrer des doses d'anesthésie locale et de diminuer les douleurs liées à l'accouchement. Eh bien, quand la patiente est mal préparée, en quelque sorte, eh bien, il est difficile d'aborder le dos. Il faut que la patiente courbe bien le dos et fasse ressortir la base de la colonne vertébrale pour qu'on trouve l'espace entre deux vertèbres. Si la patiente est tendue, eh bien, la patiente est contractée, elle développe mal sa colonne vertébrale et le médecin anesthésiste a du mal à repérer, en quelque sorte, l'endroit où il doit faire l'injection. Donc, une tension gêne la réalisation d'un geste. De la même manière, en milieu hospitalier, il nous arrive fréquemment de mettre en place des cathéters, des tuyaux, dans des grosses veines du corps pour amener des solutions de perfusion, voire des aliments. Eh bien, si le patient est contracté dans l'angoisse d'un phénomène douloureux, eh bien, les repères, en quelque sorte, sont, entre guillemets, masqués, et la gestuelle est rendue beaucoup plus difficile. Mmh. Et quand la gestuelle est plus difficile, le pourcentage de risque d'incident augmente. Donc, le patient, d'une part, lui, est anxieux, contracté et tendu. Le praticien, lui, a du mal à réaliser son geste et augmente, de ce fait, le risque de survenue d'une complication entre guillemets ou d'un incident lié au geste. Parce que tout geste médical comporte un risque incompressible d'incident. Et ce risque d'incident augmente bien évidemment avec un état psychologique du patient tendu, angoissé, anxieux, voilà. Mmh.
Alors comment justement diminuer cette anticipation anxieuse pour à la fois un meilleur vécu pour le patient et aussi des conditions de travail optimales pour le personnel soignant, même si, comme tu précises, on ne pourra jamais avoir un risque zéro, mais on pourra le diminuer quand même.
Tout à fait, effectivement, comme tu dis, c'est impossible d'avoir un risque zéro, ça n'existe pas en médecine. Par contre, améliorer considérablement la situation, préparer le patient pour qu'il aborde au mieux, dans le maximum de confort et de relaxation, entre guillemets, le geste médical ou paramédical, eh bien, effectivement, il y a une technique. Mm-hmm. Ou plutôt, une association de techniques. Et ce qu'on va proposer ici, c'est une association de techniques. On va associer principalement une technique de libération émotionnelle, qui est l'EFT, en quelque sorte, qui va diminuer la pression du stress chez le patient. Ça, c'est la première des choses. On va donc libérer le patient à l'égard de son stress, donc diminuer en quelque sorte sa pression, en quelque sorte, orthosympathique. Et puis, on va ensuite installer du positif, entre guillemets, par le biais d'une induction hypnotique, par exemple. Donc, la première action, elle consiste, dans un premier temps, à éliminer le stress négatif et à diminuer ce qu'on appelle la stimulation de la chaîne d'alerte orthosympathique, qui est elle-même liée à l'anticipation anxieuse de la réalisation du soin. Donc, il faut rééquilibrer, en quelque sorte, le système nerveux autonome du patient, et on fait ça par l'intermédiaire d'un certain nombre d'exercices. Et le premier exercice va constituer à une ventilation de type cohérence cardiaque. Mmh. Voilà. Durant un temps très bref, une minute environ, on va amener le patient à ventiler à fréquence basse, à 6 coups par minute, en privilégiant le temps expiratoire, puisque c'est là qu'on stimule au mieux la chaîne parasympathique, dont je vais vous parler dans quelques instants. Mmh. Et cette ventilation de brève durée à fréquence basse permet déjà d'assouplir en quelque sorte le système nerveux autonome du patient avant de passer aux autres phases du protocole, à savoir la stimulation EFT et l'induction hypnotique.
Oui. Alors effectivement, si tu veux bien nous dire quelques mots sur la chaîne d'alerte orthosympathique, je ne suis pas sûre que tous nos auditeurs connaissent ces termes, même s'ils connaissent l'état que ça provoque.
Voilà, tout à fait. Effectivement, ça demande quelques explications. Donc, lorsque l'être humain est face à une agression, il va réagir, en quelque sorte, et s'adapter à ce phénomène d'agression. L'organe d'adaptation à l'agression s'appelle le système nerveux autonome, encore appelé système neuro-végétatif. Ce système nerveux autonome est mis en jeu, donc, chaque fois qu'il y a une adaptation rapide à faire à une modification environnementale. Ce système nerveux autonome comporte deux pédales, entre guillemets. Mmh. Une pédale à la fois d'accélération, une pédale de réponse rapide, d'adaptation à l'urgence, qui s'appelle le système orthosympathique, ou encore appelé plus simplement système sympathique. Mmh. Ce système ortho ou sympathique, c'est la branche d'accélération, c'est l'accélérateur en quelque sorte, de notre système nerveux autonome, et qui nous permet de nous adapter très rapidement à la situation, à la modification de situation environnementale. Cette adaptation se fait par l'intermédiaire de cette branche orthosympathique et elle est médiée par l'intermédiaire d'un certain nombre de produits chimiques qui vont intervenir dans le sang. Et le plus connu s'appelle l'adrénaline. Tout le monde a entendu parler de l'adrénaline. Eh bien, c'est le médiateur, en quelque sorte, de ce système orthosympathique. À côté de cette adrénaline, il y a d'autres produits, il y a des hormones qui sont fabriquées par les glandes surrénales qui sont au niveau des reins et qui sont essentiellement représentées par la cortisone. Mm-hmm. Voilà, donc ça c'est le système d'adaptation immédiate à, entre guillemets, une agression. Et c'est ce système qui est stimulé lorsque un patient va bénéficier, en quelque sorte, d'un soin ou d'une intervention ou d'un pansement, eh bien, c'est ce système qui est stimulé parce que le patient, comment dire, est angoissé, il est tendu, eh bien, il stimule cette chaîne d'alerte orthosympathique.
Mmh. À condition d'interpréter cet acte qui va venir comme une sorte d'agression.
Tout à fait, bien sûr.
S'il est totalement tranquille par rapport à l'intervention, il n'y aura pas ce genre de réaction.
Tout à fait, exactement. Exactement. Cette chaîne d'alerte ne se met en jeu que si le patient le considère comme une situation, entre guillemets, dangereuse pour lui, mm-hmm. Comment dire, angoissante.
Oui.
Si effectivement le patient est serein à l'égard de son soin, il n'y a aucun problème, cette chaîne ne se met pas en œuvre. Donc, on part du principe, là, on va s'adresser à des patients qui ont peur, entre guillemets, et parfois on peut comprendre, qui sont anxieux, qui sont inconfortables, qui sont peut-être déjà même douloureux avant la réalisation d'un soin, et ceux-là, donc, ont cette stimulation orthosympathique. Et on va, dans un premier temps, agir pour diminuer l'intensité de cette stimulation orthosympathique. On va mettre en place deux petites techniques. La première, donc très brève, donc de cohérence cardiaque, qui vise en quelque sorte à assouplir cette stimulation orthosympathique, cette chaîne d'alerte, et pour débloquer en quelque sorte la deuxième chaîne, qui elle s'appelle la chaîne parasympathique, qui est la chaîne de repos et de récupération. Comme je vous disais tout à l'heure, ce système nerveux autonome d'adaptation à notre environnement comporte un frein, un accélérateur, ou un accélérateur, un frein. On a parlé déjà de l'accélérateur qu'on met en place et qu'on stimule lorsque on est anxieux ou inconfortable. À côté de cela, il y a un système de récupération, qui est une espèce de pédale de frein, qui s'appelle le système parasympathique. Ce système de récupération, il est médié, ce système parasympathique est médié par un autre produit qui s'appelle l'acétylcholine. C'est ce produit qui est ce qu'on appelle un neuromédiateur, qui intervient donc dans la récupération, dans le repos, en quelque sorte, de l'organisme. Et des études scientifiques ont clairement démontré, des études relativement récentes, d'il y a une petite dizaine d'années, ont clairement démontré qu'il y existait une relation directe entre la stimulation de cette chaîne de repos, de récupération, c'est-à-dire le système parasympathique, d'une part, et d'autre part, l'émotionnel et la gestion de l'émotionnel. C'est-à-dire que plus on a un système parasympathique fort et stimulé, mieux on gère notre émotionnel. Donc, partant de cette observation, on va, dans notre protocole, chercher, après avoir levé le pied, en quelque sorte, sur l'accélérateur, mm-hmm. après avoir diminué la stimulation de la chaîne orthosympathique par le biais de la cohérence cardiaque et surtout de l'EFT, et bien ensuite, on va stimuler la chaîne parasympathique pour obtenir une bonne gestion émotionnelle par le biais d'une induction hypnotique. Voilà grosso modo le canevas de la stratégie thérapeutique.
D'accord. Très bien. Alors, on va d'abord enlever le pic le plus fort avec la cohérence cardiaque et ensuite on peut lancer un traitement simple d'EFT, c'est ça?
Oui, tout à fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. La cohérence cardiaque, c'est la première action. Elle va simplement diminuer un petit peu la pression sur la pédale d'accélérateur, donc diminuer un peu l'orthosympathique, et puis, par le biais donc de cette ventilation à fréquence basse, on déclenche en quelque sorte deux réflexes naturels intrathoraciques qui vont permettre d'assouplir en quelque sorte le jeu des pédales d'accélérateur et de frein. Et on va commencer à débloquer également la pédale de frein, la pédale parasympathique. Donc, une minute simplement de ventilation de cohérence cardiaque, fréquence basse, un cycle ventilatoire, pour mémoire, un cycle ventilatoire dure 10 secondes. On y consacre 4 secondes au temps inspiratoire, 6 secondes au temps expiratoire. Une minute, ça fait donc 6 ventilations. Voilà, juste cela. Et cela permet donc de diminuer déjà un petit peu la stimulation orthosympathique et débloque un petit peu la stimulation parasympathique. Mmh. Voilà. Et puis ensuite, on se lance sur une ronde de EFT.
D'accord. Alors justement, j'espère que tous nos auditeurs ne sont pas en attente d'une intervention angoissante. Mais j'entends souvent des personnes qui peuvent se mettre en alerte orthosympathique, c'est-à-dire en état de stress, même pour une prise de sang, voire une visite chez le dentiste ou même chez le médecin. Est-ce que tu pourrais nous guider pour une petite démonstration de cette ronde tout de suite?
Ah oui, tout à fait. Donc, dans un premier temps, deux ou trois cycles ventilatoires, même, on peut alléger, la ventilation de cohérence cardiaque. Donc, deux ou trois cycles ventilatoires, j'inspire sur 4 secondes, j'expire sur 6 secondes. Donc, trois fois. Ensuite, donc, la petite ronde que l'on connaît bien, du style, même si je vais avoir cette ponction veineuse, j'ai peur que l'infirmière qui va la réaliser loupe ma veine, en quelque sorte, et puis me fasse un bleu, j'ai peur que ça me passe mal, mais malgré tout cela, je suis quelqu'un de compliant sur le plan thérapeutique, j'accepte bien les soins, et je m'accepte totalement tel que je suis. Mmh. Donc, notre répétition trois fois, même si effectivement, ce n'est pas une partie de plaisir, j'ai peur d'avoir un hématome, j'ai peur que l'infirmière ait du mal à repérer ma veine, que ma veine roule sous l'aiguille et que ça me fasse mal. Mmh. Et malgré cela, je suis un patient qui est bien compliant et puis qui cherche à faire du mieux et qui s'estime. Et ensuite, la ronde, le point du sommet du crâne, le contrapote environ une dizaine de fois, le point au coin des sourcils, là encore une dizaine de fois, et toujours dans l'exposition face à la problématique. Je suis angoissé à l'idée de cette ponction veineuse. Mmh. Je sais que j'ai un potentiel veineux qui n'est pas très satisfaisant et que je suis difficile à piquer. Le point au coin des sourcils, le point au coin des yeux, le point sous les yeux, toujours environ une dizaine ou une douzaine de fois, en exposition face à la problématique, mon potentiel veineux qui n'est pas terrible.
Peut-être aussi des souvenirs désagréables d'autres opérations qui viennent nous jouer des tours.
Ah, tout à fait. Ah, tout à fait, tout à fait. La dernière fois, parce que j'ai une surveillance régulière de mon taux de plaquettes sanguines, par exemple, parce que j'ai un traitement anticoagulant, et voilà, effectivement, la dernière fois, l'infirmière, elle a fait tout ce qu'elle a pu, et la veine a roulé, et puis, pamf, je me suis retrouvé avec un gros bleu qui m'a fait bien mal, quoi. Ouais. Et j'ai peur que ça se reproduise, hein. Donc, effectivement, la mise en exposition, des antécédents qui peuvent venir encore, là, entre guillemets, aggraver la symptomatologie anxieuse, l'anticipation anxieuse et l'inconfort. Hein. Mmh. Donc, l'ensemble des points du visage, sous le nez, entre la lèvre inférieure et le menton, notre fameux R27, hein, ensuite sous le bras, hein, ensuite les fausses côtes, et une simple ronde comme ceci qui prend finalement très peu de temps, on va dire, grosso modo, allez, 3-4 minutes. Hein.
Grand maximum,
hein, eh bien, va lever, en quelque sorte, cette pression du système nerveux végétatif, c'est-à-dire de l'accélérateur, c'est-à-dire de l'orthosympathique, et le patient va se sentir libéré. Libéré, pourquoi? Parce que le taux d'adrénaline va diminuer. Hein. La stimulation de nos points d'acupuncture, donc, conduit elle lui-même a une stimulation du parasympathique, donc lève la stimulation de l'orthosympathique, diminue le taux d'adrénaline et permet de relancer le taux d'acétylcholine. Donc installe là un sentiment, disons, de confort ou diminue notablement l'inconfort du patient. Mmh. Voilà, grosso modo, donc tu vois que c'est finalement une manœuvre simple, rapide à mettre en œuvre et qui ne demande pas grand-chose.
Oui.
C'est très riche en résultats.
Oui. Et comment cet exercice est présenté au patient à ce moment-là?
Ah ben le patient, je l'ai en face de moi, je lui dis, écoutez, voilà, je peux concevoir qu'effectivement, le soin...
Je vois que vous n'êtes pas très à l'aise,
voilà,
je vois que ça vous stresse.
Tout à fait. Et je vous propose, si vous en êtes d'accord, une petite série imbriquée de 3 exercices, voilà, qui prennent peu de temps, qui sont faciles à mettre en œuvre. Il vous suffit simplement de suivre ce que je fais, me regarder, et puis en y consacrant quelques minutes, eh bien, vous pourrez constater que ça va lever, en quelque sorte, l'inconfort que vous ressentez et vous donner beaucoup plus de sérénité pour aborder ce pansement, ce soin, cette fonction, voilà, le soin pour lequel vous êtes ici. Mmh. Voilà, je l'amène de manière très très simple, comme une petite succession de 3 exercices très faciles à faire, où le patient, en quelque sorte, n'a qu'à suivre, entre guillemets, ce que je fais face à lui.
Oui. D'accord. Donc, malgré ces quelques rondes de EFT, juste avant de passer au bloc opératoire, par exemple, peut-être que le patient se sent encore un peu tendu, pas totalement à l'aise.
Tout à fait.
Comment procéder dans ce cas? Quelle est la troisième étape?
Alors, la troisième étape, là, va être d'amener en quelque sorte du positif, c'est-à-dire stimuler la chaîne parasympathique, la chaîne de repos, la chaîne de récupération, qui va permettre d'amener, à défaut d'amener du bien-être, au moins d'amener du confort et de diminuer vraiment ou de supprimer totalement l'inquiétude. Mmh. Alors, quand la ronde de FT est terminée, je demande au patient, et maintenant, est-ce que ce qui reste vous paraît acceptable? Et seriez-vous prêt à y mettre quelque chose à la place? Qu'est-ce que vous aimeriez ressentir de sentiments positifs maintenant? Que ce soit de la joie, du plaisir, de la détente, voilà, choisissez le sentiment que vous aimeriez ressentir. Mmh. Et c'est vrai que, globalement, la majorité, une certaine majorité de patients, de la détente, hein, quelques-uns la joie ou du plaisir, et il se remémore à ce moment-là quelque chose. Donc une fois que le sentiment est défini, qui est effectivement le plus souvent, par exemple j'ai eu un patient hier, qui était un chirurgien dentiste, à qui je devais effectuer un drainage thoracique, et lui me dit, la détente. Et je lui dis, mais à ce moment-là, quel est le dernier moment, enfin, quelle est la dernière fois où vous avez ressenti ce sentiment de détente? Et pour citer l'exemple de hier, ce chirurgien dentiste me dit, bref instant de réflexion, la semaine dernière à la piscine, je vais nager régulièrement et j'aime bien me retrouver à la piscine pour faire des longueurs. Eh bien, je lui dis, retrouvez ce moment. Et ensuite, je réalise un bref accompagnement de souvenirs agréables. Donc, un balayage VACOG classique, donc d'induction hypnotique. Et ensuite, j'installe le patient dans son souvenir agréable, de manière à ce qu'il le revive. Et là, il est en stimulation parasympathique maximale. Donc, il sécrète de l'acétylcholine, ce médiateur, ce neuromédiateur, qui installe le confort et la bonne gestion de l'émotionnel. Donc voilà la deuxième étape. Donc quelques minutes pendant lesquelles, donc par exemple hier, mon chirurgien dentiste était dans son bassin à la piscine en train de faire des longueurs, après avoir observé un petit peu l'ensemble des gens qui fréquentaient cette salle, ce bassin de piscine. Et il est resté quelques instants. Ensuite un petit retour sur la respiration. Voilà, vous êtes ici et maintenant, et maintenant que vous avez bien et bien, si vous en êtes d'accord, on va démarrer ce soin. Voilà, on voit à peu près, grosso modo, comment... Et il ne faut pas énormément de temps pour faire ça.
Oui, ça peut aller très vite,
oui. Oui.
Et justement, tu proposes dans le pack du congrès une induction hypnotique de ce type, un enregistrement que les gens pourront écouter avant n'importe quelle situation stressante, finalement, pas seulement dans le cas médical.
Oui, tout à fait. Ce que je proposais, c'est de construire en quelque sorte une brève induction de 5 à 10 minutes, valable, enfin qui sera suffisamment généraliste, entre guillemets, pour aborder, on va dire, non pas seulement des soins, mais toute situation susceptible de générer de l'angoisse ou de l'anxiété.
C'est voilà, c'est une ressource supplémentaire qu'on peut avoir dans son téléphone ou dans la poche à ce moment-là.
Voilà, c'est ça. Ça sera l'objectif.
D'accord, super. Très bien. J'imagine tout à fait comment cette approche peut agir sur le stress de toutes les personnes impliquées dans ces différents soins. Et quel est, selon toi, l'intérêt principal d'utiliser l'EFT dans cette préparation?
L'utilisation de l'EFT est absolument fondamentale. Je pense que quand un patient est en anticipation anxieuse d'un soin, il n'est pas possible d'amener du confort si au préalable, on n'a pas levé l'inconfort. Mm-hmm. Et seule la technique de l'EFT, seule cette technique est capable de lever l'inconfort. Donc il faut impérativement et absolument utiliser la technique de l'EFT pour lever la charge émotionnelle, pour diminuer la pression sur la pédale d'accélérateur avant de chercher à amener du confort. Il est impératif de, anxiologiser, entre guillemets, le patient, de le libérer émotionnellement, donc avant de l'entraîner sur un souvenir agréable. Il faut déjà diminuer la pression sur la chaîne orthosympathique avant de stimuler la chaîne parasympathique.
Mmh.
Voilà. Il y a une chronologie impérative à respecter. Et donc c'est en cela que l'EFT est une étape totalement indispensable.
Oui, si vous aviez proposé à ce chirurgien dentiste tout de suite, monsieur, si on allait faire un petit tour à la piscine.
Voilà.
Peut-être qu'il l'aurait pas compris tout de suite.
Non. Ça aurait été difficile de l'emmener à la piscine.
D'accord. Alors, tu formes du personnel soignant à cette approche, à cette petite triptyque de détente. Et qui, selon toi, devrait se former à cette pratique, à part, bien sûr, le monde entier?
Bien, pour ma part, les les gens que je forme sont essentiellement des gens du système hospitalier, mais néanmoins des gens du cabinet libéraux. Alors, dans un premier temps, j'ai des infirmières et d'anesthésistes qui ont leur activité au bloc opératoire pour l'utilisation de ce triptyque technique avant la réalisation d'une anesthésie générale, avant l'endormissement, entre guillemets, ou avant la réalisation d'une anesthésie loco-régionale, d'un segment de membres, par exemple. Voilà. À côté de cela, donc, je forme également des infirmières et des infirmiers pour la réalisation des soins qui sont dans les services de chirurgie en post-opératoire. Je forme des kinésithérapeutes, puisque la mobilisation des patients après, par exemple, une chirurgie orthopédique, après une prothèse de genou, une prothèse de hanche, la mobilisation est parfois douloureuse et le patient est craintif à l'égard de cette mobilisation. Mm-hmm. Donc, le kinésithérapeute qui est formé à cette association de techniques, eh bien, peut permettre d'augmenter le confort de son patient et de ce fait aller plus loin, entre guillemets, et peut-être un peu plus vite, dans les soins de kinésithérapie.
Oui, et peut-être même augmenter finalement l'efficacité du soin.
Ah oui, ah, tout à fait. Mmh. Alors, en ce qui concerne la kinésithérapie, c'est manifeste. Hein, c'est manifeste. Le patient qui est dont l'inconfort a été supprimé et remplacé par du confort, eh bien, rentre dans son soin de kiné et progresse, fait plus de progrès, va plus loin, plus rapidement qu'un patient qui est figé, entre guillemets, dans l'anxiété d'une possible douleur de mobilisation. Donc ça, c'est les kinésithérapeutes de l'établissement, on est formé deux ou trois dans la maison, me le disent assez régulièrement.
Oui.
Ça, c'est une vraie réalité.
Oui.
Voilà, à côté de ça, donc, je forme donc des aides-soignants. Alors, les aides-soignants, quelle est la fonction d'un aide-soignant par rapport à un infirmier ou une infirmière? Les soignants réalisent principalement les toilettes, les soins corporels. Et là encore, un patient qui est alité après quelques semaines parfois d'hospitalisation développe des ankyloses articulaires, ce qui fait que les mobilisations pour les toilettes, cette fois-ci au lit, sont parfois désagréables, voire un peu douloureuses. Mmh. Et l'aide-soignant qui aide le patient en quelque sorte pour ses toilettes, eh bien, peut à ce moment-là améliorer le confort du patient pour que cette toilette se passe mieux. Donc voilà, c'est des techniques qui peuvent être utilisées à la fois pour des soins très techniques, très très techniques, très pointus, et puis à côté de ça pour des choses qui paraissent totalement banales, comme une toilette dans un lit, mais qui chez quelqu'un qui est hospitalisé depuis 3 ou 4 semaines et qui est ankylosé au fond de son lit, peut être vécu comme quelque chose d'agréable.
Oui.
Donc, tu vois que ce triptyque de technique n'est pas uniquement dévolu à des soins, ultra techniques ou sophistiqués. Non,
mm-hmm.
Ça peut être utilisé pour des choses tout à fait basiques.
Oui.
Voilà. Et puis comme tu disais tout à l'heure, on va pas chez le dentiste sans souci en joie. Bon nombre d'assistants dentaires. D'assistants dentaires, voire de chirurgien dentiste, pour la prise en charge de soins, là encore, sur des soins un peu chroniques, en quelque sorte, et qui peuvent être désagréables.
Mmh.
Donc, pour la prise en charge à la fois d'adultes et d'enfants. Hein, et l'EFT chez l'enfant marche très bien.
Oui, oui.
Très bien.
On a déjà vu. Ouais. Alors, ton chirurgien dentiste, hier, quand il revient de la piscine, il viendra se former?
Ah oui, tout à fait. Oui, il n'a pas, Dieu merci, pour lui, il n'a pas une pathologie lourde, c'est une pathologie plutôt bénigne, enfin, qui nécessite peut-être une chirurgie.
Oui.
Et effectivement, à l'automne, il m'a dit, je prends rendez-vous pour...
Il a été convaincu par la méthode, bien sûr. C'est génial de pouvoir le vivre d'abord et de le découvrir comme ça.
Tout à fait.
C'est le meilleur moyen, c'est sûr.
Oui. Voilà, tout à fait.
Et que dirais-tu d'une utilisation de l'EFT pendant l'exécution du soin? Bon, s'il s'agit d'une anesthésie générale, effectivement, ça sera difficile. Mais pendant certains soins, c'est peut-être envisageable. Qu'est-ce que tu as comme expérience dans ce domaine?
Alors là actuellement tu me prends dépourvu, je n'ai pas d'expérience parce que il est vrai que dans mon soin hospitalier, le patient, une fois qu'on réalise le soin, bon, il est généralement tout en position allongée, où ça requiert de sa part une certaine immobilité, parce que le geste est une ponction, donc le mouvement pendant la ponction, c'est pas idéal. Que ce soit une péridurale, la patiente est assise sur la table d'accouchement, le dos courbé vers l'avant et les mains. Alors, si je pense par contre que ce que j'imagine et ce que j'ai l'impression de proposer aux gens, c'est le massage du point neurolymphatique, qui me paraîtrait peut-être quelque chose qu'on pourrait faire et qui ne nuirait pas, en quelque sorte, à la réalisation d'un geste médical ou paramédical qui requiert lui plutôt, comment dire, une position statique, hein,
Oui.
relativement immobile du patient. C'est pour ça que moi, dans mon exercice, hein, dans mon exercice hospitalier, bon, j'ai besoin de l'immobilité du patient, j'ai besoin qu'il ne bouge pas,
Oui,
donc
bien sûr.
je le vois mal. Se faire du. Alors peut-être effectivement, il y a aussi le tapping sur les mains. Le
Oui.
tapping sur les mains pourrait effectivement, parce que mes zones d'accès, moi, c'est plutôt le thorax. Hein. Donc effectivement, le tapping sur les mains, le massage du point neurofascial, c'est des choses qui doivent pouvoir s'envisager et qui méritent au moins qu'on les essaye. Et puis
Oui.
qu'on regarde si ça peut être utile pour moi, pour ma stratégie hospitalière.
Oui.
Hein.
Moi, quand je vais chez le dentiste, je sais que pendant les soins, effectivement, il ne faut pas bouger le corps. Je vais
Oui,
pas aller,
oui.
je vais surtout pas aller tapoter les poings sur le visage. Mais par contre, quand il y a des petites appréhensions, je me permets, et ça ne l'a jamais dérangé, je tapote doucement sur les poings, sur les doigts.
Oui, alors c'est ça. Tout à fait. Je pense que ça, c'est la, comment dire, la partie du corps à laquelle on a accès, effectivement, quand le reste est bloqué, quoi. Et je pense que tu as raison, ça doit pouvoir, ça doit pouvoir se faire. Je pense qu'on doit pouvoir l'introduire, moi, comment dire, dans mon collectif de patients, je n'ai pas eu, comme quelque sorte, la présence d'esprit de le faire, mais là, tu me donnes une piste, qui mérite d'être fouillée, du moins dans l'exercice hospitalier.
Bon,
Tout
mais
à fait.
tu
Tout
nous
à fait.
donneras tes nouvelles là-dessus l'année prochaine, alors.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Hein?
Et puis pour les personnes qui ont déjà l'habitude d'utiliser l'EFT, il y a aussi ce qu'on appelle le tapping mental, c'est-à-dire qu'on ne stimule les poings que par la pensée. Mais ça, dans mon expérience, ça nécessite déjà une petite habitude.
Ah, tout à fait. Je crois que, comment dire, alors, j'utilise l'EFT, comme tu l'as vu et comme je te dis, pour la réalisation de gestes. Mais à côté de cela, donc, j'ai un petit collectif de patients, on va dire, pour des maladies de longue durée, pour de l'accompagnement, en quelque sorte, de maladies de longue durée. Pour l'accompagnement de maladies de longue durée et pour. Comment ça s'appelle? Comment pourrais-je dire? Des maladies auto-immunes ou pour des douleurs chroniques. Et là, c'est des patients que je vois et revois relativement régulièrement. Et il est vrai que je pratique avec eux la technique de l'EFT et au bout de, on va dire, 6 séances, quand je les ai vus à 15 jours d'intervalle, que je les ai vus au bout de 3 mois, eh bien, bon, ils ont appris. Ils se sont appropriés la technique de l'EFT et effectivement, ils la mettent en œuvre de temps à autre quand ils en ont besoin, à des moments où ils ne peuvent pas pratiquer la gestuelle, hein, parce qu'ils sont en société, entre guillemets,
Oui.
pour des réunions ou autres. Et là, ils font un tapping mental et ce tapping mental, effectivement, a indiscutablement une vraie efficacité. Hein, je reconnais que moi, à titre personnel, ça m'interroge, hein, en tant que médecin rationnel de réanimation, hein,
Oui.
je ne cache pas que ça m'interroge, mais néanmoins, force est de constater que les patients, eux, disent ça marche, c'est bien,
Oui.
voilà. Hein. Mais c'est vrai qu'effectivement, comme tu dis, il faut qu'ils aient déjà au préalable une pratique relativement assidue, hein, entre guillemets, et traditionnelle, dirais-je, de l'effet. Hein, c'est-à-dire que moi, je les ai éduqués, entre guillemets, à se prendre en charge au travers d'une demi-douzaine de consultations. À côté de cela, ils pratiquent également l'EFT pour eux-mêmes, en dehors de la consultation, à leur domicile ou sur le lieu de travail. Et avec le temps, effectivement, ils apprennent à bien manipuler l'outil et effectivement à faire un tapping mental et dont ils reconnaissent l'efficacité. Et même si je reconnais qu'à titre personnel, je demeure, comment dire, interrogatif, quoi. Je me pose des questions.
Oui, je n'ai pas plus d'explications que toi, Bruno, mais je sais que je m'en sers parfois le soir si j'ai du mal à m'endormir. Je n'ai pas envie de faire les gestes de tapotement pour ne pas déranger l'autre personne dans le lit. Et du coup, j'imagine juste dans ma tête comme si les poings s'allumaient, comme des petites lampes. Enfin, ça, c'est l'image que moi, je me suis trouvée. Et ça marche.
Oui, tout à fait.
C'est sûr.
Indiscutablement, ça marche.
Mais mon expérience, quand je le conseille à mes clients aussi, c'est que il faut quand même avoir activé les poings physiquement d'abord.
Tout à fait. Les gens qui pratiquent parmi les patients qui utilisent la technique comme ceci sont des gens qui ont déjà longuement tapoté et activé les poings, comme tu dis. Hein? Et qu'ils ont, par exemple, dans la journée, ils ont déjà fait un vrai travail physique, entre guillemets, durant la journée, avant de passer effectivement à l'activation mentale.
C'est ça. Donc pour les personnes qui viennent de découvrir l'EFT à travers les deux, trois rondes de la triptyque dont tu as parlé tout à l'heure, c'est peut-être un peu tôt.
Tout à fait, oui, je pense. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait.
Alors, de nos jours, l'EFT devient de plus en plus connu par le grand public, certes, on en voit parler dans des magazines, à la télé, à la radio, mais les adeptes hésitent à en parler autour d'eux. Est-ce que tu aurais quelques conseils pour terminer, Bruno, pour nos auditeurs, comment présenter cette technique à leurs médecins, à leurs kinésithérapeutes, les infirmiers, d'autres spécialistes médicaux ou paramédicaux?
Alors c'est vrai qu'effectivement, au sein de la médecine classique, en quelque sorte de la médecine allopathique, l'EFT, comment dire, manque un peu d'assise, entre guillemets, scientifique. Et il faut à tout prix essayer de présenter cette technique sous son aspect le plus, à mon sens, l'aspect le plus rationnel possible. Moi, à titre personnel, j'exerce dans un système hospitalier où les médecins, les chirurgiens sont au courant de ce que chacun fait l'autre, en quelque sorte. Donc, quand on utilise des pratiques un peu moins conventionnelles, telles que l'EFT, il faut essayer de la rapprocher d'un support de rationalité, à mon sens. Et en ce qui concerne l'EFT, on a un support de rationalité qui est l'acupuncture. Les points de stimulation se réfèrent à des points d'acupuncture, et je pense, à mon sens, pour essayer comment dire, de présenter la technique le plus, entre guillemets, sérieusement possible, ou du moins pour qu'elle puisse être au moins acceptée déjà de base, entre guillemets, pour être essayée. Eh bien, de l'amener sous un support, voilà, c'est une technique qui se réfère à l'acupuncture, et c'est une technique à la fois psychologique, puisqu'il y a une mise en exposition face au problème, donc ça c'est une vraie démarche de thérapie cognitivo-comportementale, hein, l'exposition et la reconnaissance. Donc on se réfère tout de même à des techniques validées, des techniques de TCC avec exposition et reconnaissance, et du tapping de points d'acupuncture, qui est également une technique validée de médecine chinoise, même si scientifiquement on n'a pas encore des imageurs, entre guillemets, qui nous permettent de visualiser les méridiens, on sait néanmoins qu'il existe une circulation énergétique, que la médecine chinoise est une médecine plurimillénaire, a une efficacité reconnue et indiscutable. Donc, en s'appuyant sur les supports reconnus, en quelque sorte, de l'EFT, que sont à la fois acupuncture et technique TCC, eh bien, je pense qu'on peut crédibiliser, en quelque sorte, l'EFT et la faire étudier, au moins, à des praticiens pour qu'ils puissent à la fois se pénétrer de l'efficacité de cette technique et puis également participer à sa vulgarisation pour le bien des patients.
Oui.
Voilà un peu comment je vois les choses.
D'accord. Mais c'est déjà ce que tu fais dans tes actions de tous les jours.
Oui, tout à fait.
Et quelles autres utilisations de l'EFT en milieu hospitalier, en dehors de cette préparation à des soins stressants, voire douloureux?
Comme je te le disais tout à l'heure, je l'utilise l'EFT pour de l'accompagnement de longue durée.
Mmh.
Alors, j'ai un certain nombre de patients qui me sont adressés par des cancérologues de l'établissement qui sont dans un chemin long et difficile. C'est généralement des deuxièmes, ce qu'on appelle deuxième ou troisième ligne de chimiothérapie, hein, c'est-à-dire que le patient bénéficie dans un premier temps de traitement standard, et puis avec les récidives, on est amené à utiliser des produits de plus en plus, on va dire, agressifs, entre guillemets, à la fois nouveaux et potentiellement agressifs, et c'est un chemin parfois difficile pour le patient.
Mmh.
Je trouve que l'EFT, dans l'accompagnement de cette typologie de patient, est, à mon avis, je trouve très utile.
Voilà. Oui.
Également, ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, qui sont des maladies un peu chroniques, également, dans leur fin de parcours, mais lorsque le temps pèse, ça dure depuis des années et des années et des années, eh bien, la découverte de l'EFT pour ces patients est vraiment salutaire. Donc, voilà un petit peu ça. Puis, après, il y a les algies chroniques. En parallèle de la consultation de la douleur.
Oui.
Voilà, grosso modo, les populations qui me paraissent bénéficier grandement de la pratique de l'EFT.
Mmh.
Donc, parce que c'est des affections chroniques et le patient apprend à se prendre en charge, il apprend à utiliser l'EFT, il s'approprie l'outil et ensuite il l'utilise pour sa vie quotidienne.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Toi, tu lui enseignes pour un problème par rapport à une douleur ou un problème précis, ça peut aussi être étendu
à
les petits bobos de la vie quotidienne.
Voilà, ouais, c'est-à-dire que je dérive ensuite sur un apprentissage, une appropriation de la technique pour la vie.
Oui.
La vie.
Eh bien, merci beaucoup, Bruno, pour toutes ces pistes précieuses.
Pas de problème, Maria. À ton service.
Alors, je suis sûre que nos auditeurs sont impatients à en savoir plus. Ne quitte pas, on va les retrouver tout de suite pour les questions-réponses.
Voilà, le chat est ouvert. Quelles sont les questions qui t'inspirent ?
Je vais les prendre de manière chronologique, en quelque sorte, un petit peu. J'ai eu une question sur le cursus infirmier. Il est évident que pour l'instant, il n'y a pas dans le cursus des formations infirmières, du moins en France, de formation sur l'EFT. Il est évident que cette formation peut être, à mon sens, très utile pour la pratique infirmière. Mais effectivement, seule l'infirmière, dirais-je, validée, étant titulaire de son diplôme d'État, peut ensuite réaliser des formations complémentaires en EFT et mettre en pratique l'outil dans sa pratique quotidienne. C'est un peu comme ça que je le vois, quoi. Je pense que c'est pas encore demain qu'on verra dans nos écoles d'infirmières enseigner l'EFT. Il y a encore du chemin à faire, particulièrement sur la validation de mécanismes d'action, surtout dans le domaine de la des sciences médicales françaises telles qu'elles sont enseignées du moins à la faculté. Nous en France, on est très axé sur le mécanisme d'action. On a besoin de le valider avant de l'enseigner en faculté. C'est un petit peu notre retard entre guillemets par rapport aux pays anglo-saxons. Donc, je pense concernant les infirmières qu'il faut que ces dernières valident leur diplôme d'État et qu'ensuite, ceci validé, elles peuvent se livrer à des formations complémentaires. Et là, je pense que l'outil sera très très utile dans leur pratique au quotidien. Ça, c'est la première des choses. Donc, concernant le cursus médical, c'est pour rebondir un petit peu sur les mêmes propos que je viens de tenir. Il y a une question sur la validation en tant que procédure médicale de l'EFT au cours du cursus des étudiants en médecine. Je crois qu'actuellement, effectivement, en France, on est un petit peu tôt, dirais-je, toujours pour cette problématique de mécanisme d'action, à mon sens. Même si, effectivement, on se réfère à la médecine chinoise, à la médecine énergétique, à l'acupuncture, d'une part, puis d'autre part à des techniques validées telles que celles des TCC. Néanmoins, je pense que nos professeurs de faculté ont encore un petit peu de chemin à faire pour, comment dire, amener cette technique dans nos facultés. Voilà, il y a encore un petit peu de chemin. Ce chemin se fera, il se fera à son rythme et en son temps. Voilà. Ensuite, une troisième question, j'ai vu concernant les patients trachéotomisés sur l'utilisation de l'EFT chez les patients trachéotomisés. Je crois que ça ne pose aucun problème. Quand quelqu'un est porteur d'une trachéotomie chronique, que ce soit pour une insuffisance respiratoire chronique ou pour un problème ORL, particulièrement en chirurgie carcinologique ORL, eh bien, c'est quelqu'un qui ventile par une canule de trachéotomie. Je vois pas où est le problème pour le tapping des points d'acupuncture et l'appropriation de la technique. Donc, je pense que chez les patients trachéotomisés, il n'y a pas de problème d'utilisation de ces techniques. Voilà. Une question suivante. Je les défile les unes derrière les autres. Peut-être est-ce que je vais vite,
Oui,
Maria?
t'as
Si tu veux bien, Bruno, j'ai une question pour toi, une question de Thierry.
Oui.
Serait-il concevable qu'un praticien EFT puisse intervenir en milieu hospitalier sans être titulaire d'un cursus de formation médicale ou paramédicale?
Ah oui, moi je pense que c'est possible, hein. Ça ne pose à mon sens pas de problème, dans la mesure où son exercice va se faire sous l'autorité, comment dire, juridique, hein, d'un médecin du service. C'est-à-dire
D'accord.
que pour que une intervention puisse se faire chez un patient hospitalisé, une intervention quelconque, qu'elle soit médicale ou paramédicale, il faut que cette dernière soit concernant une activité médicale. Que celle-ci soit sous la couverture d'un praticien hospitalier, comment dire, le chef de service, entre guillemets, ou sous la couverture, si c'est un soin simple, d'un cadre soignant, également responsable de l'unité. Dans la mesure où le cadre soignant ou le médecin du service agrée en quelque sorte l'intervention d'un spécialiste en EFT, cette dernière peut parfaitement se produire en milieu hospitalier. Alors, ça suppose effectivement une relative ouverture d'esprit, dirais-je, disons des professionnels de l'unité en question.
D'accord.
Hein?
Il faut arriver à trouver une porte d'entrée via un médecin.
Oui, je pense qu'effectivement, il est difficile, à mon avis, de se passer en quelque sorte de la porte d'entrée médicale, même si je pense un cadre infirmier avalise en quelque sorte l'utilisation de la technique dans son unité. Je pense qu'elle aura tout de même, enfin, ce cadre infirmier aura besoin de l'aval de sa hiérarchie médicale, à mon sens.
Oui. Il y a quand même des hôpitaux où on trouve cette ouverture d'esprit. J'habite
Oui.
Montauban et il y a un hôpital là-bas où il y a un souffleur de feu qui passe tous les matins dans les services des brûlés. J'ai une amie qui s'était gravement brûlée et j'étais allée lui rendre visite hein, et elle m'a dit pour les patients qui veulent, il y a quelqu'un qui passe tous les matins et qui enlève le feu.
Oui, à titre personnel, ça ne me choque pas. Hein.
Voilà.
Je pense qu'il faut admettre que notre médecine allopathique est une médecine, on va dire, tout de même relativement chimique. Hein. La base de notre fonctionnement, c'est ce qu'on appelle en chimie la relation structure entre la structure chimique du médicament et la structure chimique du récepteur. Donc, on appelle ça une relation structure-activité. Donc, c'est ce qui fonde, ce qu'est le fondement, en quelque sorte, de la médecine occidentale. Mais il y a bien d'autres approches, et je crois qu'il faut être persuadé de l'utilité, d'une part de l'existence, et d'autre part de l'utilité de ces autres approches.
Voilà, et des ouvertures d'esprit, des gens qui peuvent ouvrir des portes, notamment à l'ESP, en le présentant, comme tu disais tout à l'heure, comme une pratique qui a des assises scientifiques.
Oui.
Oui. Voilà, il y a une antériorité dans les pays anglo-saxons qui est certaine, avec des gros collectifs de patients, donc sur lesquels on peut effectivement déjà s'appuyer, et même pour les médecins français qui n'ont pas, de par le langage, accès facilement à la littérature anglo-saxonne, eh bien, on peut effectivement utiliser les autres arguments, c'est l'appui physiologique, je dirais, sur la médecine énergétique chinoise, et puis l'appui sur les thérapies cognitivo-comportementales.
Oui, il y a des techniques complémentaires qui rentrent petit à petit.
Oui, oui, tout à fait, elles font leur chemin. C'est comme partout, il faut du temps pour que les choses changent. C'est normal, on ne peut pas brusquer.
Néanmoins... Je donne également des formations EFT et il y a plusieurs formations et formateurs en France de EFT et on voit dans nos cours arriver de plus en plus de médecins, de personnels paramédicaux, des infirmières, des kinésithérapeutes et
tout à fait.
De plus en plus de gens ne sont pas formés dans les institutions mais viennent se former à titre personnel et voir comment ils peuvent le mettre en œuvre de leur côté par la suite.
Voilà, et c'est comme ça que le chemin se fait. C'est pour ça que, tout à l'heure, quand on parlait des études d'infirmière ou d'études médicales, je pense qu'il faut déjà faire le cursus, on va dire, classique. Oui. Le cursus classique étant fait, étant en place et validé, par les autorités institutionnelles en place dans une institution de soins, eh bien, à ce moment-là, montrer son intérêt pour les techniques alternatives, s'y former et les amener pour montrer leur efficacité. Et c'est en montrant l'efficacité, entre autres, de l'EFT, qu'on sera les meilleurs défenseurs et les meilleurs témoins de l'efficacité de ces techniques.
Oui. Hein,
c'est en l'utilisant, en la pratiquant, en montrant, sans en être sectaire, hein, parce qu'il n'y a pas que l'EFT, il y a plein d'autres choses, mais l'EFT est une chose très positive, et c'est en montrant son intérêt qu'on la fera progresser.
Tout à fait.
Il faut l'utiliser.
Il faut l'utiliser, et puis... Ouais. J'ai discuté avec un dentiste qui avait vu sa clientèle vraiment s'apaiser parce qu'elle était suivie par un praticien EFT. Et pour tous les soins dentaires, ça peut être très intéressant. Ce sont des soins qui sont souvent anxiogènes. Et quand le patient tapote sur ses toits pendant qu'on lui passe la roulette, c'est quand même sympa pour le chirurgien et le dentiste aussi.
Bien sûr, le praticien, il voit, lui, l'avantage d'avoir un patient plus confortable, qui tolère mieux, et puis le patient, lui, il voit d'être serein. Donc, tout se passe pour le mieux, et dans ce contexte-là, le chirurgien-dentiste, lui, qui voit passer aussi des étudiants dans son cabinet, participer à la diffusion de la technique à des praticiens plus jeunes, leur dire, voilà, moi je connais un truc, c'est bien, mes patients s'en portent mieux, et c'est ainsi que la technique fait son chemin.
Tout à fait.
Je pense que c'est comme ça que les choses changent, que les choses évoluent, par la transmission, par l'utilisation, les praticiens qui l'utilisent, eh bien, ils ont des étudiants, ils forment les étudiants, et ainsi de suite. Et outre la satisfaction des patients, il faut que les praticiens qui l'utilisent participent à la diffusion par le biais également de leurs étudiants.
Oui.
Et comme ça, c'est garant d'une évolution et d'une diffusion, puis d'une meilleure connaissance, quoi. On ne sera plus dans un phénomène un peu confidentiel, mais dans un phénomène plus de masse, et à ce moment-là, qui va vraiment, prendre ses lettres de noblesse.
Toi, tu exerces à Saint-Étienne et l'EFT, tu en fais tous les jours, tu en fais.
Oui, pratiquement quotidien, oui, tout à fait.
Au quotidien.
Au quotidien, oui. Alors, mon activité, c'est de la réanimation, dans une unité de réanimation. Mon unité fait également des soins continus. Alors, c'est un petit peu une espèce de soins intensifs, en quelque sorte, mais où les malades sont conscients. Alors que dans le service de réanimation, les patients sont inconscients. Ils sont dans un coma, le plus souvent artificiel, pour assistance de ventilation mécanique. Mais dans les services de soins intensifs ou soins continus, le patient, donc, là, est conscient et peut coopérer, en quelque sorte, et collaborer à une technique de type EFT. Alors, mon activité, c'est essentiellement du soin post-opératoire. À côté de cela, j'ai une activité de consultation de post-réanimation, c'est-à-dire après séjour de réanimation. On appelle ça la réhabilitation, en quelque sorte, des patients qui ont fait des séjours un peu agressifs, entre guillemets, qui parfois ont des séquelles. Et j'utilise l'EFT pour la réacclimatation, en quelque sorte, la réadaptation de ces patients. Et puis enfin, j'ai un petit collectif de patients qui m'est adressé par des médecins de ville, des patients, disons, on ne sait pas par quel bout prendre, en quelque sorte, hein, qui échappent un petit peu à l'approche un petit peu rationnelle de notre médecine allopathique. Voilà.
Donc, du personnel hospitalier, les formations, tu les formes à cette technique?
Oui, alors je les forme à cette technique dans deux registres. Oui. D'une part, je forme du personnel hospitalier à la gestion du stress. Mmh. Je suis intéressé depuis quelques années à la gestion du stress des soignants. Donc, j'ai développé une unité de gestion du stress des soignants et je fais des formations à l'égard des soignants vis-à-vis de la gestion du stress dans l'exercice soignant. Mmh. Alors, en développant plusieurs techniques, l'EFT n'est pas la seule, bien sûr, hein. Entre autres, la cohérence cardiaque, la méditation de pleine conscience, la relaxation musculaire. Enfin, l'EFT est en pôle position, je dirais, dans les techniques de gestion du stress des soignants. Et puis, j'ai eu une autre casquette. Je forme des soignants pour, comment on peut appeler cela, pour pratiquer des soins plus confortables pour le patient, en utilisant des techniques accessoires, qui est la technique que j'ai exposée dans la conférence, à savoir une technique ventilatoire, une technique de libération émotionnelle qui est l'EFT, et associée ensuite à une technique de modification de champ de conscience, type hypnose.
Et qu'est-ce que ça a changé dans la clinique, dans l'hôpital, dans la...
Alors, dans l'hôpital, enfin dans l'établissement, les changements sont ponctuels puisque je n'ai pas encore l'adhésion, du corps chirurgical, mm-hmm. qui est un corps tout de même extrêmement rationnel, on va dire les deux pieds dans le béton. Hein. Oui. Il y a de la route à faire. Cette route passe par les aides-soignantes, les infirmières, les cadres infirmiers, qui eux sont beaucoup plus perméables, je dirais, à la technique. Donc, ça suscite des interrogations, on va dire, voilà. Ouais. Les résultats positifs amènent à des interrogations. Ouais. Donc, le programme dans nos établissements intervient depuis environ une année. Les interrogations suscitées par les mises en pratique, en quelque sorte, des nouvellement formés, conduisent à des inscriptions, en relativement grand nombre, pour l'année prochaine. Donc, c'est moins que la greffe a l'air de prendre.
Voilà. D'accord.
C'est intéressant. Même s'il y a encore un gros chemin à faire. Cet après-midi, j'avais encore un groupe de formation. Entre autres, j'avais une technicienne manipulatrice radio, une technicienne de scanner qui pratique l'EFT pour elle. Un de ses médecins de scanner, avait l'amimé un petit peu. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, bon, un propos un petit peu gentil mais un peu ironique. Mais ça vient. Voilà. D'accord. Ça vient. Il faut du temps. Il faut du temps, particulièrement pour le monde médical qui a du mal à admettre son propre stress.
Oui.
Ça, il y a un vrai problème avec ça, de prise de conscience de réalité, que le médecin est un homme comme les autres, est un individu, on va dire, comme tout le monde, donc soumis aux mêmes pressions et aux mêmes agressions et aux mêmes risques de trébucher. Donc, il y a cette prise de conscience à prendre. Donc, l'EFT est à mi-chemin entre, la gestion du stress du soignant et puis le service rendu au patient. Et le soignant, le prend aussi pour un outil pour lui, dans son exercice, qui lui rend service et qui rend également service au patient. Mais bon, là encore.
Tu dis que les médecins sont des personnes comme les autres, je suis d'accord, mais il me semble qu'ils sont peut-être un peu plus stressés que la moyenne, donc la gestion du stress, ça peut être une porte d'entrée possible.
Ah, tout à fait, non mais tout à fait. La problématique, c'est que le latin, entre guillemets, l'esprit latin, place parfois le médecin comme un référent, entre guillemets, et celui-ci, lorsqu'il est installé comme un référent, se croit obligé de jouer un rôle, entre guillemets, où il ne doit pas faillir, en quelque sorte.
Oui,
et ne pas faillir, ça pose un vrai problème. Or, parce que tout le monde, à un moment donné ou l'autre, a le droit de faillir. A le droit de ne plus assumer, quoi. C'est-à-dire, c'est humain. Et cette acceptation, en quelque sorte, est très, très, très difficile dans le monde latin, le monde médical latin. Là encore, il y a du chemin à faire.
Mm-hmm. Les formations que tu donnes, Bruno, elles sont que dans le cadre du milieu hospitalier dans lequel tu travailles ?
Alors, pour l'instant, oui. Donc, d'ici quelques mois, il y aura un site internet, l'établissement auquel j'appartiens va faire un site internet, et ces formations, effectivement, seront accessibles à des gens qui n'appartiennent pas au milieu hospitalier.
D'accord.
Ouais. À partir de l'automne ou de l'année prochaine.
D'accord. Alors, je vois plusieurs questions. Est-ce que la pratique de l'EFT en cabinet privé ou à l'hôpital est légale ?
Légale, alors... oui, bien sûr, à partir du...
Avec l'acupuncture, quand même.
Non, où il y a, c'est pas l'acupuncture. C'est-à-dire que légale dans ce sens que on ne peut pas s'installer, entre guillemets, reconnu par le Conseil de l'Ordre, comme spécialiste en EFT.
Oui,
Par contre, si on est docteur en médecine ou soignant en libéral, infirmière à domicile par exemple, on peut parfaitement, en toute honnêteté, puis on peut sans aucun problème utiliser l'EFT, sans aucun problème. Il n'y a pas de problème de légalité à utiliser l'EFT. Par contre, on ne peut pas se prévaloir vis-à-vis d'un conseil de l'ordre, qu'il soit médical ou paramédical, de la pratique de l'EFT. Mais on peut utiliser la technique en toute légalité, à la satisfaction à la fois du praticien et surtout des patients. Il n'y a pas de problème de légalité. La technique est parfaitement utilisable. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il n'y a aucun souci. Par contre, on ne peut pas, ni un médecin, ni une infirmière diplômée d'État ne peut mettre une plaque, en quelque sorte, à l'entrée de son cabinet, médecin, docteur machin, ou mademoiselle machin, spécialiste en EFT. Ça, par contre, on ne peut pas le faire.
Ça, vous ne pouvez pas le faire, oui. Vous avez une réglementation là-dessus.
Voilà.
Maintenant, on connaît beaucoup de psychologues, psychothérapeutes, infirmières, oui, qui utilisent l'EFT sans, voilà, forcément mettre une plaque, bien entendu.
Voilà, tout à fait. Et puis qu'ils l'utilisent sans aucun problème, à la grande satisfaction de leurs patients et d'eux-mêmes. Ou d'eux-mêmes. Oui. Tout à fait. Tout à fait.
D'accord. D'accord, je regarde s'il y a d'autres questions.
Alors, Joël, est-ce que Bruno fait des formations certifiantes par Skype pour quelqu'un qui se trouve en Afrique, par exemple? Pour l'instant, non.
Pour l'instant, non.
Oui, oui. Dites au passage que des formations certifiantes en EFT, c'est tout un débat qu'on n'abordera pas ici.
Voilà, qu'on abordera peut-être demain. Certification, pas certification, qui certifie qui, que veut dire ces certifications en EFT?
Disons qu'il y a énormément de praticiens EFT en dehors du milieu hospitalier, voilà, qui font, oui, d'excellentes séances sans certification, avec une formation, certes.
Voilà, c'est ça. Au demain, en deuxième séance, on expliquera un peu le paysage de l'EFT et le paysage des certifications EFT.
Tout à fait. Je crois que ce qui est important, c'est la formation. Hein, c'est, oui, voilà, c'est de s'atteler à faire une formation sérieuse et de s'y mettre vraiment, de passer tous les cursus, tous les échelons. Et puis, moyennant quoi, je pense qu'effectivement, ensuite, on peut faire du très bon travail.
Exactement.
Tout à fait.
Et je sais d'ailleurs qu'il existe, pour le personnel soignant, il existe des formations qui rentrent dans le cadre de la formation continue obligatoire pour certains métiers.
Ça s'appelle l'OGDPC.
Oui, tout à fait. L'OGDPC.
Voilà.
C'est l'OGDPC, tout à fait, effectivement, et dans le cadre de l'OGDPC, il existe effectivement des formations certifiantes, et l'EFT peut faire partie de formations certifiantes. Alors, est-ce que j'ai le droit de citer une formation qui n'est pas, à laquelle je n'appartiens pas, hein, mais pour, à titre d'exemple, est-ce que ça m'est permis à l'antenne?
Oui, je pense qu'il n'y a que, en France, il n'y a que deux formations qui sont accréditées au GDPC, et puisque tu travailles avec l'une d'entre elles, tu peux la citer.
Voilà. Bon, c'est celle de Jean-Michel, par exemple, qui fait une formation sur Lille, dans un organisme qui est très sérieux, qui s'appelle Symbiophy. Vraiment, mais sérieux, hein, sérieux, très,
oui,
très,
qui je vais l'écrire dans rattaché, le chat pour, voilà, que des gens puissent aller, voilà, voir
c'est
cette
rattaché au, ouais, c'est rattaché au CHU de Lille, hein, c'est la société Symbiophy et l'organe, entre guillemets, de communication du service de psychiatrie du CHU de Lille, dirigé donc par Dominique Servant, un psychiatre de grand renom, et puis également le service de biophysique et physiologie cardiovasculaire du CHU de Lille, où vraiment il y a des gens de très très haut niveau. Donc cette unité, donc Symbiophy, fait des formations certifiantes, et il y en a une en EFT qui est animée par notre ami Jean-Michel Buret, et qui est qualifié au GDPC.
Oui.
Qui est qualifié au GDPC. Donc, qui est parfaitement utilisable pour les personnels de santé, dans le cadre de l'OGDPC. Tout à fait.
Tout à fait.
Tout à fait. Ouais. Et personnellement, que j'ai suivi à titre personnel, donc je ne peux en dire que du bien.
Est-ce que tu peux dire quelques mots, Bruno, sur comment, tu as dit tout à l'heure que tu es un médecin très rationnel, de formation scientifique, et comment tu es venu à connaître et à pratiquer l'EFT?
Et à accepter, voilà, cette technique tout à fait bizarre de stimulation, ouais, du coin.
Par le plus grand des hasards. Donc je me suis intéressé au stress des soignants, donc j'ai fait un petit peu ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la littérature, quoi, hein, la littérature scientifique sur le stress. Et puis par des liens internet, je suis tombé sur l'EFT. Bon, et j'ai commencé à me documenter, et puis je me suis dit, c'est bizarre, ça peut-être être intéressant. Voilà. Et j'ai regardé ce qui se trouvait relativement proche de Saint-Étienne, c'est-à-dire Lyon. Et je me suis retrouvé dans la formation de notre ami Jean-Michel. La première séance, pour tout vous dire, je me suis demandé, non mais je vais être très honnête. Moi, vous savez, je suis un réanimateur, hein, donc un réanimateur, ça relie des malades à des respirateurs artificiels, ça met en place des dialyses, ça met des toniques cardiaques, enfin, il n'y a rien de plus rationnel qu'un réanimateur. Donc, je me suis demandé vraiment où j'étais tombé. Et j'ai décidé de rester le week-end entier, pas me sauver le samedi au bout de 2 heures. Je suis resté et là, j'ai été scotché. Vraiment, j'ai découvert quelque chose qui m'a sidéré. Et je reconnais que, et c'est ce que je dis aux gens que je forme, mon plus grand regret est de l'avoir connu trop tard, d'une certaine manière.
Oui, oui, oui. Ça fait ça à tout le monde, Bruno. Tu sais, voilà. On a tous l'impression qu'on... Mais pourquoi je ne connaissais pas ça il y a 10 ans ou il y a 5 ans?
Voilà. Tout à fait, tout à fait. Oui. C'était mon grand regret. Voilà. Et donc j'ai finalisé donc les formations avec Jean-Michel et Marion Glic. Et parce que c'est Lyon, quoi, je veux dire. Moi, je suis une atmosphère lyonnaise. Et voilà. Donc le hasard, la curiosité, l'étonnement. Il a fallu franchir, à un moment donné, j'ai failli me sauver, hein, je reconnais, hein, j'ai failli me sauver, hein, j'ai persisté 2 heures, hein, et puis après c'était la passion, voilà. Oui. La passion d'une découverte qui vraiment était vraiment novatrice, quoi.
Tu sais Bruno, le créateur de l'EFT nous dit, mais personne ne croit à l'EFT en première intention, qui peut croire les résultats que l'on obtient juste en stimulation des points sur le corps. Personne ne peut croire ça si on le lui explique. Il faut l'essayer.
Tout à fait. C'est très vrai. Je crois que il faut faire la preuve de l'expérimentation.
Oui.
Et il n'y a qu'en ayant fait la preuve de l'expérimentation qu'on peut passer le cap et puis non seulement être convaincu, mais ensuite, c'est un adepte fervent ou un fidèle serviteur.
Parce que c'est vrai qu'en l'expliquant, c'est assez compliqué de persuader quelqu'un que ça peut être chouette. Il vaut mieux essayer de lui faire goûter et à ce moment-là, avec ce qui se passe, on peut continuer à apprendre.
C'est vrai, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec cette approche. Et d'ailleurs, j'ai des collègues dont deux professeurs d'université avec lesquels j'ai eu l'occasion de pratiquer en quelque sorte de d'utiliser la technique pour eux-mêmes, quoi. Et au début ils ont pratiqué avec un air goguenard pour finir par être surpris, quoi. Et le lendemain me retéléphoner en me disant, attends, ton truc là, c'est quand même bizarre, je comprends pas, mais ça m'énerve et ça marche, et je comprends pas.
C'est ça. Il faut les surprendre, il faut les prendre par
surprise. Oui, voilà. Oui, surprendre.
je vois sur le chat qu'il y a pas mal de débats autour de Symbiofi, etc. On parle de Symbiofi parce que c'est vraiment un établissement qui porte l'EFT. Et c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est réellement avec des gens extrêmement sérieux et cartésiens. Il n'existe pas que Symbiofi en France. La formation de Jean-Michel Guret, qui est une très très bonne formation. Yves Vautier, qui est passé à l'antenne hier, fait aussi d'excellentes formations. Je fais des formations et je crois qu'elles sont bien aussi.
Plusieurs de nos intervenants proposent des formations.
Voilà, il y a des écoles et il y a plein de professeurs très sérieux et très bons.
Là, on a parlé de Symbiofi parce que la question s'est posée par rapport à.
Par rapport à moi, au personnel médical et puis ma relation personnelle, entre guillemets, avec l'EFT, elle n'est pas univoque. Et effectivement, heureusement, il y a effectivement une grande diversité de centres de formation, tous aussi bons les uns que les autres. Je pense que personne ne peut se prévaloir d'une supériorité par rapport à une autre. Je pense que.
Symbiofi au GPCDD, là, je ne sais plus comment tu dis ça.
Au GDPC.
Au GDPC. Voilà, c'est la seule à être au GDPC.
Qui est l'obligation de formation continue pour le personnel soignant. Voilà, c'est ça?
Voilà, c'est tout. Mais à côté de cela, il y a beaucoup d'autres manières en France de se former effectivement avec énormément de sérieux et de professionnalisme. Hein, je crois que...
Ah oui, je vais rectifier. Je crois que Geneviève Gagos, qui est à Lyon, a également le label au GDPC.
Tout à fait.
Elle l'a eu, en tout cas, elle l'a eu, je ne sais pas si elle l'a encore.
Ouais.
Mais voilà.
Très bien. Ouais. Non, mais je crois qu'honnêtement, effectivement, ce qui caractérise les formateurs, enfin, à mon sens, hein, quand je les vois exercer, comme les formateurs EFT, c'est leur engagement, un enthousiasme et un engagement d'une part, et puis d'autre part, la rigueur de la démarche.
Oui.
Voilà, et je crois que c'est ce qui caractérise, à mon avis, un petit peu, quand je regarde un petit peu sur le net, les formations dispensées, toutes sont marquées par cela, quoi. Et je pense que, donc, dans ces formations, on peut y acquérir le meilleur.
Et puis, il y a même des écoles de coaching. Là, on va utiliser le FT dans d'autres sphères que le soin. Mais il y a de plus en plus d'écoles de coaching qui utilisent l'EFT aussi pour accompagner les gens sur des problématiques de croyances et de problématiques émotionnelles. Ce sont des gens qui vont bien, mais qui pourraient aller mieux et qui utilisent aussi cette technique parce qu'elle a vraiment un éventail possible très très vaste.
Ah mais j'en suis entièrement persuadé. Et alors, si vous me permettez, Maria, je voudrais rebondir. J'ai vu passer deux questions,
oui.
Donc voilà. Elles me touchent un petit peu puisqu'elles concernent un petit peu mon activité professionnelle. Faites-vous de l'EFT de groupe lors du stress intense ou paix du personnel, surtout en réanimation où la mort est présente. Ça, c'est une question qui m'interpelle. Et pensez-vous qu'on puisse aussi s'intéresser aux familles de patients hospitalisés? Et là aussi, c'est des questions qui m'interpellent énormément. Oui. Alors, dans les unités de réanimation, effectivement, certes, effectivement, la mort est présente, c'est clair. Mais je pense que l'infirmière de réanimation, je ne sais pas si on peut dire qu'elle a une charge plus lourde qu'une infirmière d'un autre service de médecine ou d'un service, par exemple, de gériatrie où on s'occupe de personnes âgées, de démence, d'Alzheimer, où là, la charge émotionnelle est épouvantable. Donc, je pense que le stress est présent partout chez les soignants. Il n'y a pas de primauté, à mon sens, de la réanimation par rapport à la gériatrie ou par rapport à la neurologie ou par rapport à la chirurgie. Et je pense qu'effectivement, le personnel soignant a besoin beaucoup qu'on prenne soin de lui. Ça, par contre, c'est une vraie réalité. Et je pense que il y aurait un gros gain à pratiquer l'EFT en groupe chez les soignants. Et je ne suis pas encore arrivé, à titre personnel, à le faire dans mon établissement et dans mon service. C'est un de mes objectifs. Il faut du temps. Hein. Il faut du temps pour passer, il faut du temps pour crédibiliser, il faut du temps pour avancer. Et je crois que c'est, à mon sens, pour moi, un objectif prioritaire que d'arriver à faire du travail de groupe en EFT avec le personnel d'une unité soignante. Alors ça, par contre, il y a un bel objectif et qui rendra énormément service aux soignants. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, les familles de patients hospitalisés, elles sont dans une vraie détresse qui varie bien évidemment en fonction de l'agression que subit le patient. Mais le corps paramédical et médical fait du mieux qu'il peut, bien évidemment, avec les familles hospitalisées. Mais c'est vrai que je pense qu'il y aurait un grand gain, là encore, à l'utilisation d'une technique telle que l'EFT vis-à-vis des familles de patients hospitalisés. Arriver progressivement, à aborder les familles de patients hospitalisés et dédramatiser les situations par le biais de l'EFT. Et je pense que là, effectivement, on pourra y arriver. On pourra y arriver. C'est un objectif aussi. C'est un objectif. Donc, vous voyez que le champ de développement, il est immense. Hein.
Immense, ça c'est sûr.
Raison. Tout reste à faire, presque.
Oui, oui.
Alors, Thierry pose la question, Bruno. Est-ce que tu autoriserais qu'on cite ton nom et ton expérience pour argumenter sur les bienfaits de la pratique de l'EFT?
Ah oui, pas de problème. J'assume ce que je fais.
Parce que tu viens d'en parler devant potentiellement des milliers de personnes. Donc,
de toute façon,
oui, non, mais...
Ça,
je,
ça,
je,
ça,
je, oui.
La conférence est enregistrée.
Oui, non, mais pas de problème, j'assume. Hein. Je dis ce que je pense avoir des propos qui sont tout de même, comment dire, modérés, qui laissent simplement la porte ouverte, hein, et je pense qu'il faut laisser les portes ouvertes, voilà.
Bien sûr. Et tu es un exemple où l'EFT peut être utilisé dans un milieu hospitalier avec une belle ouverture du personnel encadrant.
Et je vois dans le chat qu'il y a des projets de te cloner pour que tu puisses intervenir dans tous les hôpitaux de France. Mais bon, on est, au point de vue technique, on n'a pas encore trouvé exactement la solution, donc ce n'est pas pour tout de suite.
Il y a une question assez intéressante dans le chat, c'est pensez-vous qu'on peut faire du tapping pour quelqu'un ou avec quelqu'un qui est dans le coma?
Moi, je pense que, alors, je l'ai à titre personnel pas réalisé dans le service, parce que si j'y vois une indication, conjointe, entre guillemets, entre une démarche familiale et une démarche de patient, dans une démarche, comment dire, antérieure du patient, et que je n'ai pas eu l'occasion de découvrir en quelque sorte cette circonstance, de me trouver confronté à une telle circonstance. Mais comme ça, là, de but en blanc et un peu de pourpoint, je me dis, face à une souffrance de famille, à quelqu'un qui pouvait potentiellement être très anxieux, peut-être qu'une pratique, qu'une utilisation de la pratique pourrait se faire. Oui, pourquoi pas, tout à fait. Mmh. Mais vis-à-vis d'un patient comateux, ça doit me paraître tenir d'une démarche à la fois où la famille est impliquée et où le patient, a manifesté, un intérêt et une approche un peu compatible. Je l'imagine un peu comme ça, peut-être.
D'accord. Si un membre de la famille désire faire de l'EFT sur un de ses proches qui est dans le coma, tu n'y verras pas d'inconvénient?
À titre personnel, non. Moi, je me déclare tout à fait disposé pour en parler avec cette famille, ainsi que du contexte pathologique du patient, et d'examiner tout à fait sans arrière-pensée, sans préjugés, ni idées préconçues, d'un intérêt éventuel de l'EFT dans le cas de ce patient.
Oui.
Hein, préexaminer comme ça la situation et voir si effectivement il peut possiblement y avoir un intérêt et si il y a une probabilité, même une simple probabilité pour qu'il puisse y avoir un intérêt, tout à fait d'accord.
Merci infiniment Bruno pour tout ce que tu as partagé.
Merci.
Je vois dans le chat que les gens t'écouteraient pendant des heures, je dis pareil. Mais nous devons malheureusement libérer la salle pour la conférence suivante.
Merci de tout ce temps que tu nous as consacré, Bruno. Parce que c'est un peu du temps de ministre,
voire
de médecin chef de service.
Ouais. Voilà. Pour parler de l'EFT, on prend du temps. Hein. Il n'y a pas de problème.
Merci infiniment, Bruno.
Et c'est moi qui vous remercie de votre aide également technique et puis de votre soutien et de la, du sérieux avec lequel vous avez construit tout cela.
Merci. Au plaisir de te rencontrer, Bruno.
Voilà, au plaisir de te voir. À très bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.